La quotidienne, avec Michel Cloutier et Izzy Lévesque. Un regard sur l'actualité agricole.
Bienvenue à cette nouvelle édition de La quotidienne. Mon nom est Michel Cloutier. Izzy est absente aujourd'hui, mais on a quand même nos collaborateurs habituels. On a Yannick Patelli de La vie agricole, évidemment éditeur. On a Simon Bégin de l'Institut Jean Garon. Bienvenue, messieurs.
Bonjour, Michel.
Et comme à l'habitude, vous avez un invité à nous présenter.
Oui, et on a un invité studio aujourd'hui. On est très contents. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu d'invité studio. Ça faisait quelques jours. Et là, on a Frédéric Cyr, qui est en fait le chef du Château Frontenac, en fait le chef culinaire du Château Frontenac. Frédéric, on est très content de t'avoir, d'autant plus que j'ai à mes côtés Simon Bégin, et je sais qu'il y a beaucoup d'histoires qui vont rejaillir, parce que la famille Cyr et la famille Garon, dont Simon Bégin est la mémoire, il y a beaucoup de choses à dire.
Il y a des bons souvenirs.
Il y a des bons souvenirs, on va y venir tout à l'heure, parce qu'on va évidemment parler du manoir des érables, etc. Peut-être dans un premier temps, moi ce que je veux souligner, c'est que, c'est que Frédéric, tu as été nommé cette année chef cuisinier de l'année. Alors peut-être expliquer aux auditeurs, parce qu'on est écouté dans plusieurs régions par les radios FM partenaires, c'est quoi être chef cuisinier de l'année en fait?
C'est un des plus beaux prix qu'on puisse avoir en cuisine au Québec, parce que depuis sa fondation, depuis 1960, quelque chose comme ça, la Société des chefs, par ses membres élus, élit un chef de cuisine comme chef de l'année. Donc c'est pas un concours, c'est pas une compétition, c'est nommé par tes pairs et élu par tes pairs. Donc, c'est quand même le fun. Puis pour moi, ces pairs-là sont mes profs, sont mes parents, sont des amis de mes parents, des gens que tu connais depuis 50 ans parce que j'ai 50 ans, que tu connais depuis toujours parce que t'as grandi dans une cuisine avec des parents qui étaient cuisiniers puis que les autres sont autour. Fait que quand tu viens de ce milieu-là, gagner le prix de chef de l'année de la Société des chefs, c'est...
C'est une belle reconnaissance, ça,
tu sais. Ouais, tu peux difficilement avoir mieux que ça. C'est vraiment... Tu es élu par des gens qui ont fait le même chemin que toi, qui ont usé leur semelle aux mêmes places, puis qui reconnaissent que tu as fait tes classes, comment tu les as faites, avec qui tu as travaillé. Et c'est quand même...
Il y a de la concurrence entre les chefs, mais il y a aussi beaucoup d'affection.
Ouais.
Des liens.
Je pense qu'il y a... Je sais pas si je vis ça parce qu'on est à Québec, là, mais moi, généralement, je vis beaucoup de fraternité avec les chefs. Je trouve qu'on a... C'est un métier qui a beaucoup plus de pression qu'avant. Plus regardé au niveau financier, les marges sont plus petites, le travail est plus aigu. Donc, être plusieurs à le supporter, à se donner un coup de main, à échanger sur nos problématiques, sur
une
nos
belle
succès.
Solidarité.
S'appeler pour se dire nos succès, s'appeler pour féliciter.
Je dirais que le public a plus d'attentes aussi maintenant, ils sont peut-être un petit peu plus connaisseurs.
Oui, mais en même temps, tout ça, c'est comme accéléré. Fait que c'est quand même le fun d'avoir des collègues pour le partager. Ils sont autour de toi, on se connaît mieux, on se connaît bien, on échange chancellement, on n'a pas peur de se demander conseils, références.
Aujourd'hui, Frédéric, tu es au Château Frontenac, dans la chaîne Fermont.
Moi, je suis directeur culinaire du Fermont. Si on veut, c'est que c'est moi qui suis sur tout ce qui se fait en nourriture au château.
Bon, c'est ça que j'allais te poser comme question, parce que pour expliquer, en fait, il y a aussi un chef. Il y a Gabriel, en fait, Moller-Langeon, qui est le chef.
Il y a sept chefs.
Ouais. Mais Gabriel, qui est votre nouveau chef, qui vient d'arriver il y a quelques mois.
Moi, je suis le chef du Château Frontenac. Gabriel est le chef du restaurant Champlain. Puis j'ai un chef qui est Jean-Sébastien qui vient de commencer aujourd'hui d'ailleurs au restaurant Le Sam. Puis j'ai Fernando qui est mon chef au banquet. Fait que j'ai quand même une suite de personnes qui sont là. Gabriel est le chef du Champlain, c'est le successeur de Stéphane Moda, si on veut. Fait qu'il arrive d'un restaurant fantastique, il arrive du Mousseau à Montréal. Il était chef de cuisine au Mousseau à Montréal. Il a travaillé chez Faviken en Norvège, il a travaillé chez Noma au Danemark, tout ça. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui a travaillé dans les restaurants les plus modernes, un peu les restaurants les plus regardés des dernières années.
Et toi, dans ton parcours aussi, tu es allé un peu partout, parce que moi, je me souviens, quand j'étais éditeur à Montmagny, je me souviens, on est d'avoir vu l'arrivée de Frédéric Cyr, qui venait, et on va venir tout à l'heure au manoir, qui venait en support, en fait, au manoir des érables. Tu es repassé par la maison familiale, en fait.
Ouais, j'étais à New York. Moi, je suis revenu de New York... Des fois, je me mélange dans les dates, là, mais je suis revenu de New York, je pense, pour revenir au manoir. Puis pour moi, c'était une expérience fantastique parce que j'arrivais, après plusieurs années, je revenais avec quelque chose à apporter dans la maison familiale qui avait été la cuisine de mon père pendant 15 ans.
Est-ce que je comprends bien que tu es un peu le chef des chefs? Tu n'es pas vraiment toi-même au fourneau. tu supervises l'ensemble?
Non, des, mais je supervise une grosse, grosse brigade. On est 125 au château, donc évidemment, on ne peut pas être au fourneau en supervisant 125 personnes. On fait presque 800 000 repas par année dans 3 restaurants différents, avec un traiteur, avec un service de banquet. Fait que c'est vraiment une très, très grosse opération, une des plus grosses au Canada.
J'imagine que de temps en temps, tu peux te cuisiner. Bon,
ah, pour oui. toi et tes je amis. Le fais pour moi-même et je le fais aussi. Ce qui est le fun, ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que c'est vraiment un travail d'échange et de complicité avec d'autres professionnels qui sont des super professionnels de top niveau. Fait que ça, c'est super cool parce qu'on échange ensemble sur c'est quoi les problématiques, qu'est-ce qu'il faut trouver comme solution. Puis moi, je suis un peu comme un producteur de film. Eux sont comme le réalisateur du film. Fait que, est-ce qu'ils ont des problèmes matériels? Est-ce qu'ils ont des problèmes de financement? Est-ce qu'ils ont des problèmes de qualité? Est-ce qu'ils ont des problèmes de ci, de ça? Faut qu'on travaille ensemble là-dessus. Qu'est-ce que ça va être le sujet du film? Comment on avance avec ça? Comment on va le promouvoir? Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que ça fonctionne pas bien? Est-ce que c'est bien présenté aux gens pour avoir un public? Fait que toutes ces choses-là, c'est des problématiques que moi, je vois avec mes chefs. Je suis leur interlocuteur.
Et tu parlais, Frédéric, tout à l'heure de la reconnaissance de ton entourage et de ta profession, en fait. Mais tu as aussi une reconnaissance dans le milieu agricole de par les producteurs, parce que j'ai la lettre, en fait, que la chèvre et les choux t'ont envoyée, qui est un marché virtuel, en fait, sur la côte du Sud, de la région dont tu viens. Ouais. C'est signé d'ailleurs l'équipe du marché. On a vu ça sur la page Facebook. En fait, félicitations pour la reconnaissance de chef de l'année que vous avez reçue. Vous êtes un véritable ambassadeur pour votre région, mais aussi pour les producteurs et les productrices locaux. Donc, en fait, il souligne ton engagement et la chaîne Wichou se félicite. En fait. Donc, en fait, ça veut dire que tu as une reconnaissance dans toute la chaîne alimentaire, en fait, au-delà simplement des chefs cuisiniers.
Ben, y a une réalité culturelle d'être cuisinier dans un milieu. Tu sais, quand on va en Chine, on s'entend de manger de la nourriture chinoise. Quand on s'en va en Inde, on a ça. Quand on s'en va dans une Amérique du Sud, on s'imagine ça. Mais quand on vient au Québec, les gens qui nous visitent ont aussi ce désir-là de découvrir c'est quoi la bouffe de chez nous. Et que l'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on le voit, qu'on ne le voit pas, c'est l'usage qui l'emporte. Comment on travaille, qu'est-ce qu'on fait, c'est qui les producteurs, tout ça. Puis, pour qu'il y ait un développement de ce milieu-là, il faut qu'il y ait un maillage entre les différents intervenants des intervenants du milieu alimentaire. Fait qu'il faut que le cuisinier parle avec son agriculteur puis qu'il dise, ben moi, écoute, quand ces légumes-là sont comme ça, sont trop gros pour moi. Quand c'est comme ça, ça devrait être plus petit. Quand tu me fais la pintade à 650 grammes, elle est trop petite. Si tu me la fais à 3 kilos, c'est trop gros. Qu'est-ce que je fais pour que ça fonctionne?
Et là, t'es dans la tradition familiale. Ben parce oui. qu'on va venir à Jean-Cyr, justement, qui est ton père.
À Renaud.
Est-ce qu'on peut dire que Renaud Cyr est le père du terroir au Québec?
Ben, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on parle de farm to tables, de la ferme à la table. À l'époque, on parlait de la cuisine régionale. En fait, c'est qu'on parlait que dans chaque région, il y a des gens qui font des choses. Comment chaque région peut prendre les produits de sa région, les mettre sur la table pour avoir une réalité qui soit régionale, puis que dans un tour du Québec, chacun ait ses forces. Puis qu'il y a comme une spécialité dans chaque région du Québec. Aujourd'hui, ben, c'est ça. Quand on parlait de la cuisine, ça, à l'époque, c'était la cuisine régionale, mais c'était ça l'idée. L'idée, c'était qu'il faut se parler, il faut faire le maillage pour créer cette culture-là. Pour que la bouffe dans les régions soit vivante, il faut que les gens se parlent entre eux pour être capables de développer des produits.
Et de Renaud Cyr, il en est question dans le livre, pour tout vous dire, le livre Mémoire de Jean Garon.
Ah ouais.
Je pense qu'on va peut-être pouvoir parler tout à l'heure de la relation particulière que Jean Garon a développée avec Renaud Cyr, qui en plus était à l'époque déjà ministre de l'Agriculture, Jean Garon, en fait.
Ouais, donc,
le Manoir des Érables, c'était une étape importante pour lui dans ses passages, je pense.
Ben oui, le Manoir des Érables, ça me rappelle tellement de beaux souvenirs. C'était un peu un petit quartier général secret pour M. Garon et son équipe proche. Il y a même eu, à un moment donné, des grandes réunions stratégiques à tous les sous-ministres, le président de la financière agricole, le président de la régie des marchés. C'était là une espèce de lac à l'épaule, mais à Montmagny, au Manoir des Érables, il y avait des moments vraiment mémorables. Mais tu parlais de la cuisine régionale. Ton père a un peu été un des pères de cette pensée d'une cuisine régionale par les restaurants. Puis c'est là que ça a connecté beaucoup avec M. Garon.
Ouais.
Jean Garon a compris assez rapidement que pour atteindre son objectif d'autosuffisance, connecter davantage l'agriculture québécoise avec les consommateurs, il y avait un joueur très important qui était souvent oublié, c'était le restaurateur. Alors, dans la pensée de M. Garon, le restaurateur était un joueur essentiel pour faire connaître les produits. Puis un gars comme Renaud Cyr, qui était connecté sur le terroir, sur les produits québécois, c'était naturel. Ça a été une alliance naturelle entre les deux.
Puis ça a apporté fruit. Parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est que les gens arrivent avec une poignée de produits, puis il faut qu'ils les vendent à quelqu'un. C'est sûr que de les distribuer, d'en faire la promotion auprès des individus, c'est bien plus difficile que d'avoir 3-4 restaurants du coin qui te prennent ta production au complet, puis qu'eux, là, travaillent sur l'année. Fait qu'on a vu souvent les petits fromages, les petits cheptels de volaille, des choses comme ça. Ça a beaucoup commencé comme ça, le foie gras.
Oui. Bon, en fait, un exemple classique, je pense, ça a été le crabe des neiges.
Ouais.
C'est le crabe des neiges, dans le temps, à l'époque, c'était un déchet, les pêcheurs rejetaient ça, mais c'est les restaurateurs qui ont fait découvrir aux Québécois le crabe des neiges. Aujourd'hui, c'est un des piliers des pêches au Québec.
C'est ça. Puis ça permet de structurer ce développement-là parce que ça crée le volume tranquillement, puis ça permet de le populariser auprès des gens parce que les gens vont au restaurant, les chefs font des... Aujourd'hui, c'est encore pire parce que les chefs font des recettes sur Internet, ils font des recettes à la télé, ils font plein de choses. Fait que ça prend vite un produit complètement inconnu de mettre sur la table des gens, c'est beaucoup plus rapide que ce l'était avant. Puis ce mariage-là entre les chefs, les producteurs, les médias, puis ces choses-là, c'est ce qui fait de la restauration. C'est ce qui fait de la bouffe dans un pays ou dans une région, une culture vivante. Mmh. C'est tous ces acteurs-là de distribution, de ci, de ça, qui permettent de ramasser. Puis justement, ben, il y a le prix Renaud Cyr. Puis le prix Renaud Cyr, il célèbre ce mariage-là entre les chefs et les producteurs qui permet de garder ce côté créatif-là, cet apport nouveau tout le temps, ce maintien,
Justement, on va venir tout à l'heure, je ne sais pas s'il faut aller à la pause, Michel, entre deux, mais en tout cas, on va venir tout à l'heure sur les mémoires, en fait. Le prix Renaud Cyr, c'est une mémoire importante de Renaud Cyr, et il faut y travailler encore. Il y a la mémoire de Jean Garon, je sais que l'Institut y travaille en partie. On va pouvoir, dans la deuxième partie de l'émission, venir sur les mémoires de ces hommes importants d'agriculture.
Effectivement, on peut aller à la pause tout de suite, et on vient dans un instant. Écoutez la saison 2 de La vie agricole à Ma TV. Cette année, on focus sur les fromages du Québec. Écoutez cet automne et cet hiver Ma TV pour découvrir l'histoire et les fromages de la fromagerie Boivin, fromagerie L'Ancêtre, fromagerie La Station, fromagerie Les Basques, laiterie Charlevoix et Yannick Fromagerie. Et grâce à l'apport de plusieurs experts, dont ceux de l'Institut Jean Garon, découvrez les enjeux qui attendent les fromagers du Québec dans l'avenir.
Avec le M7 de Kubota, soyez bien équipés pour mieux travailler. Exécutez tous vos travaux d'entretien avec performance, confort et polyvalence. Profitez d'incroyables offres sur les modèles M7 en plus de la meilleure garantie de l'industrie. Visitez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails.
Alors, nous voilà de retour à la quotidienne. On est évidemment avec les gens de La Vie agricole. On a Yannick Patelli, éditeur de La Vie agricole. On a Simon Bégin de l'Institut Jean Garon. Et leur invité aujourd'hui, Frédéric Cyr, qui est chef... C'est quoi le...
Directeur culinaire.
Directeur culinaire, voilà. Du côté du Château Frontenac. Ben voilà.
On ne peut pas parler de la famille Cyr sans parler de Renaud Cyr. Voilà. Le prix Renaud Cyr qui existe encore, est-ce qu'on peut dire qu'il est à relancer, qui a remodelé?
Ben, c'est parce qu'en fait, c'est un prix qui n'est pas lancé chaque année, qui est toujours aux 2 ans. Avec la pandémie, on a sauté une année. Donc, cette année, il a été relancé tout dernièrement. Les gens peuvent aller voir le renaudcyr.com, puis ils vont pouvoir donner leur candidature, etc. Souvent, c'est un prix qui élit chaque année un chef et un artisan, un chef qui promeut les artisans de sa région, qui les inscrit sur ses menus, qui travaille dans le développement des artisans locaux, et vice-versa, un artisan qui utilise les chefs et les restaurateurs pour diffuser son produit.
C'est le pont entre l'agriculture et la cuisine.
Et la cuisine, exactement. Ça inclut aussi des distributeurs, quand il y a des distributeurs qui vont faire du réseau sur des petites distances. Ça inclut les professeurs de cuisine qui vont aussi avoir ça dans leur éducation, dans la façon dont ils vont le faire. Ça inclut des artisans transformateurs. Il y avait les Givrés de Montréal qui l'ont gagné à la dernière édition, qui font de la crème glacée, mais qui utilisent beaucoup, presque uniquement des fruits du Québec, le mélilo, l'érable. Ils ont vraiment une attention particulière à ça. Puis, voilà, les enseignants, puis les producteurs de vins et spiritueux aujourd'hui, parce que c'est une facette qui s'est beaucoup développée avec les années. Fait que les gens qui produisent.
Et là, le projet pour les prochaines années, pour le prix Renaissir, c'est quoi? C'est de le mettre un peu plus encore visible,
plus visible
médiatiquement auprès du grand public?
Aussi, ce qui s'est passé, c'est que dans le passé, c'est une nouvelle génération. Maintenant, c'est une nouvelle génération. Ça avait été fondé à l'époque par Françoise Keller, T.H. Joyce. Il y avait Maurice Dufour, les fromages Maurice Dufour. Fait que c'est quand même une génération qui était au cœur des choses. Là, maintenant, on est en train de relancer, de faire un nouveau comité, d'avoir les gens autour de ça. Il s'est jamais arrêté, mais comme tous les prix, je pense que chaque année, quand on relance, il faut se repréparer, remonter notre cahier de charges. Qu'est-ce qu'on veut faire? Avoir un bon conseil d'administration. Là, on est en train de finir de monter les jurés pour les prix. On est en train de rechercher les candidatures. Tout ça vient de se relancer. Le but, c'est de l'apporter pour qu'il soit un meilleur outil de promotion pour les gens. Mais ce qui est très important pour moi, c'est de ne pas en faire un prix à gogo. C'est toujours un prix qui a du sens. C'est un prix qu'il faut monter un dossier pour l'avoir. Faut prouver ces choses-là. Faut pas juste être à la mode et populaire. Ce que j'aime, c'est que ça fait des fois découvrir de merveilleux inconnus, des gens qui sont méconnus dans le métier, et que quand on voit leur dossier, leur candidature, on réalise qu'ils maillent dans une région spécifique avec les gens et qu'ils sont tout à fait dans l'esprit du prix. Puis ça, je trouve ça fabuleux. Fait que j'espère que dans le futur, avec la nouvelle structure de médias sociaux et de choses comme ça qu'on va être capable d'établir tranquillement dans les prochaines années, je pense qu'on va être capable aussi de l'utiliser comme un bel outil de promotion, puis que ça va aussi être, une tape dans le dos pour les gens qui vont le gagner, mais aussi un saut de qualité.
Alors, c'est certainement un prix qu'on va suivre de près. Moi, j'ai toujours entendu parler du prix Renaissir, parce que quand j'étais encore là, éditeur à Montmagny, ça se parlait déjà. On avait les retours sur les prix de Renaissir. Évidemment, on connaissait à l'époque. Moi, j'ai connu le manoir des érables ouvert avant qu'il soit racheté par Maison La Prise, en fait. Mais en fait, on a eu la chance, d'ailleurs, Simon, je ne sais pas si tu te souviens, d'aller au manoir en faire une émission où Lorraine, ta mère, en fait, était présente, parce que même quand Daniel Laprise avait racheté le manoir, on a eu l'occasion d'aller faire une émission à l'intérieur du manoir. Un lieu somptueux, magnifique, qui fait partie en fait des souvenirs qui sont racontés aussi dans le livre de Jean Garon, parce que comme tu le disais tout à l'heure, ça a fait partie de l'ancrage du ministre de l'Agriculture Jean Garon à l'époque, d'aller sur la côte du Sud, emmener ses équipes, mais rencontrer aussi les producteurs. C'est pour ça que le prix Renaissir, je pense, est très proche de la philosophie de Jean Garon, parce que c'est vraiment la rencontre des agriculteurs et des cuisiniers gastronomiques.
En fait, je vous expliquais tantôt que pour M. Garon, le secteur de restauration, c'est un acteur important, mais le point de contact entre Jean Garon et le monde de la restauration, c'était beaucoup Renaissir. Alors, c'était à lui qui demandait des idées, c'était à lui. Ils se parlaient, je les vois encore assis ensemble, puis ça pouvait changer tard dans la nuit. Alors, les idées passaient, on devrait faire ça de même, puis en tout cas, ça a été une alliance qui était importante pour ton père, importante pour M. Garon, mais importante pour le Québec aussi. Ça a donné des résultats.
Ce que je trouve fascinant là-dedans aussi, c'est qu'on réalise mal tous les dossiers qui étaient gérés par le ministère de l'Agriculture de Jean Garon à cette époque-là. C'était les quotas, la protection du territoire agricole, l'assurance récolte, ci, le ça. C'est vraiment de passer l'agriculture à la modernité, qu'elle soit mieux soutenue. Et c'était aussi vrai dans toute cette cette industrialisation, structuration de l'agriculture, que tu pouvais laisser beaucoup de petits producteurs artisans de côté. Et pour quelqu'un comme mon père, ça pouvait faire, une assiette en trois couleurs au lieu d'en avoir 1000. Fait que c'était aussi une grande discussion au niveau stratégique. C'était pas toujours des choses qui étaient faciles à mettre ensemble. Le petit volume et le grand volume, l'assurance récolte sur ces petits régimes. En fait, toute cette réalité-là, c'est quand même assez fascinant de voir à quel point tout était traité, tout était pensé, tout était considéré. C'était vraiment... Il y avait beaucoup de dossiers en même temps.
Il y avait ce qu'on pouvait appeler une politique agricole. Elle n'était pas écrite nulle part, mais elle existait. Moi, il y a un point que je vais peut-être rappeler. On dit souvent derrière tout grand homme, il y a une femme. Je pense à ta mère.
Oui. Ouais.
Le rôle qu'elle a pu jouer. On ne peut pas passer à Renault 6 sans penser à Lorraine.
Ah non. Non. C'était vraiment...
Toujours là, toujours présent.
C'était vraiment un couple extraordinaire. Là. C'était vraiment des gens qui ont travaillé ensemble, ils ont construit ensemble, ils se comprennent.
Ah, quand on pense que...
Les meetings d'administration se faisaient sur Laurier.
D'où ils sont partis aussi. C'est incroyable, cette histoire-là. C'est une saga familiale incroyable. Puis que toi, tu as comme la continuité.
C'est impressionnant de voir comment... Mon père des camps de bûcherons à 12 ans.
Ben oui.
À être dans la rousse gastronomique en fin de carrière, c'est une autre...
Ah oui, puis se lever de la nuit pour préparer le pain pour les bûcherons du matin.
Puis tout ça, puis d'arriver après, d'arriver à Montréal, d'avoir rencontré des grands chefs cuisiniers qui lui ont permis d'aller dans les écoles, de faire ces écoles-là. De le faire avec Léonard Gagnon, qui a été le fondateur de l'ITHQ, le premier directeur de l'ITHQ.
Et comment la flamme lui vient? Comment la flamme lui vient pour dire « je veux devenir un grand chef » Est-ce qu'il a décidé qu'il devenait un grand chef ou c'est le chemin de la vie qui a fait ça?
Il était bon. Non, mais souvent, c'est niaiseux, mais ça paraît bête, mais il était bon. Il arrivait vite. Comment je peux dire? Ça faisait partie de la solution, pas du problème. Fait que quand il travaillait avec quelque part, il y avait toujours des bonnes références. Il y avait toujours... Les gens se souvenaient de lui. C'est quelqu'un qui avait un bel entre-gens, qui avait de l'opinion, mais qui aussi était assidu au travail, qui travaillait fort, qui était talentueux. Fait que d'un emploi à l'autre, ça a toujours été... Ça a toujours grandi, cette...
C'était naturel, c'était un peu comme un don. Des fois, on a des gens, on dirait qu'ils ont un don pour quelque chose, c'était naturel pour eux, alors...
Puis on le sent, ça, puis les gens autour d'eux le sentent, puis même si... Même s'il n'est pas plombier, il est bon là-dedans.
On parle de don et de grand chef. Ça m'allume sur une discussion qu'on a eue il y a quelques mois avec Frédéric, puis qui est encore en préparation. Tu sais, on a parlé l'année dernière de faire venir Marc Vera au Québec. Bon, ça devait peut-être se faire l'automne dernier, cet automne en fait, cet automne. On en parlait au printemps dernier. Ça ne s'est pas encore fait parce que y a une histoire, médicale en fait, qu'il fallait régler pour Marc Vera cet automne. Mais le projet tient la route encore, et le projet, c'est que Marc Vera devrait visiter le Québec et le Canada, en fait, pour la première fois de sa vie, quelque part au printemps prochain. On parle de fin avril, début mai. On a bon espoir de lui faire rencontrer la cuisine québécoise, les herbes sauvages, puisque c'est sa passion.
Ouais.
Mais je disais ça parce qu'en fait, quand on parle de dons et de... C'est Marc Vera, c'est quelqu'un qui est arrivé de la bergerie de son grand-père, en fait, et qui a décidé un jour qu'il faisait de la cuisine, en fait. Et il est devenu, après... trois étoiles Michelin.
C'est une carte de route. 20
plus... Goemillo, c'est une carte de route exceptionnelle, sur le plan international.
Je pense qu'il n'y a personne qui a fait ça. Il n'y a personne d'autre qui a fait ça. C'est une légende. C'est drôle parce que moi, quand j'étais en formation, Marc Vera, Michel Bras, ces gens-là qui faisaient la cueillette des herbes sauvages, puis là, c'était comme les grands chefs que tout le monde regardait avec... Tu sais, dans le fond, ce qui est marrant, parce qu'on tantôt on en parlait de la... Le fait d'avoir un projet culturel donc qui appartienne à un lieu, dans un espace-temps, avec une population précise, c'est ça qui est le plus trippant là-dedans. Parce que à toutes les fois que tu voyages, tu rencontres ça, mais chez vous, ce qui est intéressant dans les gens qui font des... Tu sais, les gens qui ont la vraie cabane à sucre, où ce qu'ils mettent du bois, puis qui font leur truc, puis qui font ça toute la nuit, puis qui se font des petites ponces de gin, puis qu'ils vont cuisiner là aussi, que ce soit pour recevoir des groupes ou juste entre eux. Souvent, ils vont faire quand même une certaine cuisine traditionnelle où il y a beaucoup d'eau d'érable, de choses d'érable. Puis cette réalité-là, elle vit parce que tu es dans un microcosme pendant 3 semaines de sucre. Et ça, il existe comme ça. Ou La fin des jardins avec tout le monde qui fait des bouillies de légumes, avec la pêche à l'esturgeon à Montmagny, avec toutes ces petites choses-là qui sont culturelles, qui appartiennent à un lieu, puis qui font en sorte que tu es capable d'avoir ces saveurs-là autour de toi parce qu'ils éclosent ou qu'ils sont là dans un petit espace-temps pas longtemps.
Mais j'espère qu'on arrivera à faire connaître Marc Véran un espace-temps au Québec. Tu parles d'esturgeon. Moi, je suis allé, grâce au Manoir des Érables, d'ailleurs, à l'époque où j'étais à Montmagny, à la pêche à l'esturgeon à 4h30 du matin. C'est assez exceptionnel. Mais effectivement, Marc Véran, donc, il sera là. On va essayer d'organiser quelque chose, évidemment, avec le Ferment. Et la Véricole travaille fort actuellement pour le...
C'est un super beau projet.
Pour l'amener par ici.
Et ces petits moments-là, souvent, ça crée des traditions. Ces moments-là, dans l'année, qu'on parle des sucres ou de l'esturgeon, ou je pense, dans le coin de la Gaspésie, à un moment donné, le temps du crabe, ça devient des traditions de dire, à ce moment-là de l'année, je vais à tel endroit pour telle saveur, telle... odeur, parce que c'est tout ce qui est autour qui devient associé. La musique qu'on entend lors de l'événement, que ce soit dans un restaurant ou une autre place publique, on déguste ce produit-là.
Exactement.
Les saveurs, ça devient une expérience en soi. Et je pense que de plus en plus, surtout dans une époque, je dirais, post-pandémique, là, avec le confinement qu'on a connu, je pense que les gens sont de plus en plus à la recherche de ces moments-là. C'est des instants qui nous appartiennent, c'est des moments
tout
particuliers.
Moi, je suis convaincu de ça.
Effectivement, moi aussi, faut en créer. Faut en créer, surtout les chefs. Évidemment.
Non, mais c'est vrai, mais puis ça marche. T'sais, les gens se retrouvent, il y a des festivals, il y a des festivals, il y a des festivals de ci, de ça, où les gens célèbrent les régions qui sont producteurs de porc, de ci, de ça. Les gens font des trucs au soir. Ça permet d'avoir une identité forte aussi, de célébrer les gens qui le font, puis aussi d'apporter quelque chose d'unique dans son région.
Découvrir des artisans.
Oui.
Des artisans vraiment de produits.
Puis il y a des choses, il y a des produits qui sont, le blé d'Inde. Tu sais, on parlait de Portneuf, tout ça, mais tu sais, le maïs, tu sais qu'il est là, tu sais que c'est bon, puis il y a une période où il est bon.
Précis.
Puis quand c'est pas ce maïs-là, pas pareil.
Exact.
Fait qu'il y a comme un moment où tu as le produit, où c'est le temps. Avant le temps, c'est pas le temps. Après le temps, c'est plus le temps. Mais quand c'est le temps, c'est le temps.
Là, au Québec, on pourrait espérer la même chose pour le lait. Hein. On en parle beaucoup. Notre lait, pour avoir un lait de région, un lait de terroir,
tout
un produit identifié. Malheureusement, c'est pas le cas. Là. C'est tout mis ensemble dans un grand bassin, puis ça perd son nom. Mais ça serait possible d'arriver à ça aussi avec nos grandes productions.
Puis il y en a eu des productions qui ont été... il y a des gens qui ont régionalisé. En Estrie, il y avait une ou deux très belles de laiterie qui développaient là-bas. Puis
Le lait comme produit du terroir, ce serait quand même un beau projet, ça.
Ben, particulièrement, si on en fait beaucoup, je pense que dans la masse d'autant de produits, qu'est-ce qui est comme le bœuf, ou comme autre chose, on se dit, bon, ben, c'est quoi le grade, c'est fait par quel... au-delà du grade, c'est quelle variété de vache?
En fait, c'est l'identification du producteur et de la région, ou du cahier de charge.
C'est ça. Mais aussi la transformation de comment ton lait, si ton lait est pasteurisé complètement ou s'il est thermisé, s'il est entier complètement ou si tu as enlevé une part du gras pour en faire autre chose. C'est quand même intéressant ça pour voir parce que quand tu changes tes saisons, la vache n'est pas nourrie de la même façon, tu n'as pas les mêmes pourcentages de gras, tu n'as pas les mêmes acidités dans le lait. Fait que c'est quand même intéressant tout ça de...
La création d'appellation, tout à l'heure on parlait du maïs, c'est Neuville a créé son appellation.
Ouais.
Il pourrait y avoir des éléments comme ça qui pourraient être faits.
Oui, puis je sais pas, par exemple, il y a très peu de... Il y a eu une mode autour de la vache canadienne. À un moment donné, on sentait qu'il y avait un engouement pour les gens pour la sauver. Là, c'est plus difficile. Il y a très peu de troupeaux. Puis là, tu te dis, ben, comment tu le valorises,
Mais justement, on a fait une série sur les fromages récemment avec ma TV, sur les fromages du Québec. Puis on ressortait sur l'histoire des fromages, l'histoire des races des cheptels, en fait. Et il est ressorti, en fait, qu'actuellement, il y a juste deux fromages faits à base de races canadiennes. Si je ne me trompe pas, le pied de vent et l'Étrie Charlevoix qui ont fait... les seuls qu'on peut trouver sur le marché actuellement, effectivement.
Il y a encore de la place pour développer cet esprit-là de connecter notre industrie alimentaire avec notre terroir, notre territoire.
Tout à fait. Moi, je pense que cette place-là dans le porc aussi.
Oui, bien sûr.
Tu as des variétés de porc qui sont très, très maigres, tu as des variétés de porc qui sont très gras. quand on parle très gras, ben,
c'est un secteur qui a été pensé principalement pour l'exportation. Là, il faut qu'il refasse un virage. Peut-être ça sera le temps là, dans
les produits de super qualité.
Ça ramène justement l'obligation à penser à de petites productions diversifiées plutôt qu'à une espèce de grand ensemble comme on connaît présentement dans le port.
C'est un des dollars de la Stujangaro.
Exact. Ben voilà.
Ben merci messieurs, c'est à peu près tout le temps qui reste pour aujourd'hui. C'est très agréable de t'avoir en studio, Frédéric. Merci.
Ça passe vite en bonne compagnie. Hein?
Ouais.
Bonne
journée. Toujours. Alors voilà qui complète cette quotidienne. On se dit à la prochaine.